VOA Afrique, les infos. À Washington, Idrissa Dia.
17h à Dakar, 19h à Bujumbura. Pour la deuxième journée consécutive, la police burundaise est parvenue à étouffer aujourd'hui quasiment toute manifestation hostile au président Pierre Nkurunziza dans les quartiers de Bujumbura, a constaté l'AFP. Des manifestants ont tenté de se rassembler dans les quartiers Ngagara et Kibutoke, mais ils ont été immédiatement dispersés par les tirs de la police qui tient fermement les grandes avenues et ratisse jusqu'à dans les moindres ruelles. Même scénario dans les quartiers de Nyakabiga et Kanyosha. Cette nouvelle tactique semble en voie d'étouffer tous les rassemblements après 40 jours de contestation populaire dans la capitale contre la candidature en troisième mandat du président Pierre Nkurunziza pour la présidentielle du 26 juin. Le Parti démocratique vert, petite formation d'opposition rwandaise, a déposé une requête à la Cour suprême lui demandant de bloquer toute tentative de réforme de la Constitution ouvrant la voie en troisième mandat pour le président Paul Kagame, a appris à l'AFP Franck Abineza, le président du Parti démocratique vert. Cette requête intervient alors que le Parlement doit débattre entre le 5 juin et le 4 août d'une éventuelle réforme de la Constitution pouvant permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017. Le président Paul Kagame s'est félicité de cette initiative du Parti vert. Ils exercent leur droit. Le Parti vert, bonne chose, a réagi le chef de l'État sur son compte Twitter. En Centrafrique, l'armée française a annoncé aujourd'hui la diminution des effectifs de l'opération militaire française Sangaris fin juin 2015, Félix Yepassi Zembrou.
En effet, le contingent de Sangaris passera de 1700 à 900 soldats fin juin. C'est ce qu'a indiqué à l'agence France-Presse le porte-parole de l'armée française, le colonel Gilles Jaron. Ce retrait, a-t-il souligné, s'inscrit dans un processus de désengagement amorcé il y a plusieurs mois. Rappelons que le président François Hollande, en recevant la chef de la transition Catherine Samba-Panza le 27 mai dernier à l'Élysée, a salué le déploiement effectif des forces des Nations Unies qui allait permettre la diminution progressive des troupes françaises. L'opération Sangaris a été déclenchée en 2013 sous mandat de l'ONU pour stabiliser le pays en proie à un cycle de violence intercommunautaire opposant les milices anti-Balaka à l'ex-coalition Séléka de Michel Dotodia au lendemain du renversement du président François Bozizé. Signalons que la présence de Sangaris en Centrafrique a été entachée par des accusations de viol commis sur des enfants par des soldats français entre fin 2013 et début 2014. Paris et l'ONU ont demandé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire dans laquelle 14 soldats ont été mis en cause.
Un couple de touristes français a été agressé par des voleurs dans l'état d'Ebonyi, dans le sud-est du Nigeria. L'homme a été tué, sa femme a été blessée et des biens dont de l'argent ont été volés, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police nigériane. L'ambassade de France à Abuja a confirmé ce crime qu'elle a qualifié de purement crapuleux. Le président nigérian Muhammadu Buhari est aujourd'hui au Tchad, deuxième étape de son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir après le Niger. Une tournée placée sous le signe de la lutte contre Boko Haram. Le général Buhari doit avoir des consultations à ce sujet avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Le changement à la tête du Nigeria pourrait relancer les efforts des États-Unis pour combattre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président Muhammadu Buhari donne aux deux pays une chance de repartir sur de nouvelles bases après des relations plutôt tendues sous son prédécesseur Goodluck Jonathan. Les précisions de Lionel Gahima.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Et rien que de mensonges, affirme ce militant qui demande que les pays combattants son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement avant l'investiture du président Muhammadu Buhari, qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérian sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry, qui était présent à sa prestation de serment. Pour J. Peter Pham de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérien. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement et envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre, malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Harim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et les enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
Le bilan de l'explosion survenue mercredi à Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, s'élève désormais à 18 morts, a déclaré jeudi à l'AFP un milicien impliqué dans la lutte contre Boko Haram. Des explosifs semblent avoir été déposés près d'un garage en face d'un bâtiment militaire et plusieurs mécaniciens font partie des victimes. Une explosion dans une station d'essence à Accra au Ghana aujourd'hui a fait au moins 90 morts et de nombreux blessés. Un grand nombre de personnes avaient cherché un abri dans cette station à cause de pluies torrentielles et l'incendie qui a suivi l'explosion s'est propagé à des immeubles voisins dans le centre-ville. Le président John Mahama s'est rendu sur les lieux du désastre et a qualifié les pertes en vies humaines de catastrophiques.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les autorités libyennes, non reconnues par la communauté internationale, ont arrêté quelque 545 migrants illégaux originaires d'Afrique qui prévoyaient de traverser la Méditerranée pour se rendre en Europe, a indiqué jeudi un responsable libyen. Les migrants ont été arrêtés lors d'un vaste coup de filet près de Tripoli, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer, a expliqué à l'AFP Mohamed Abdelsalam Al-Khouiri, un responsable du bureau de lutte contre l'immigration clandestine qui dépend des autorités installées dans la capitale. Ils sont originaires d'Afrique et la plupart d'entre eux sont des hommes, et a également indiqué à l'AFP Mohamed Bakker, qui travaille pour cette même administration. Les clandestins arrêtés ont été amenés vers des centres de rétention à Tripoli. Amina Gharib Fakim a été officiellement élue aujourd'hui par l'Assemblée nationale mauricienne comme nouvelle présidente de cette île de l'océan Indien, devenant ainsi la première femme à occuper cette fonction honorifique dans l'histoire du pays. L'Assemblée nationale mauricienne a adopté à l'unanimité, d'après l'AFP, une motion du Premier ministre Anerod Diagnot proposant la nomination de Mme Gharib Fakim à la présidence de la République. Le chef de l'opposition parlementaire Paul Berenger ainsi que les membres de l'opposition ont également voté en faveur de la motion. M. Berenger a toutefois regretté que le gouvernement ne l'ait pas autorisé à s'associer à ce texte. Âgée de 56 ans, Amina Gharib Fakim, scientifique renommée, prêtera serment comme présidente de la République vendredi après-midi. Reprise ce jeudi à Vienne des négociations sur le programme nucléaire iranien, le département d'État américain souligne que l'objectif reste de parvenir au plus tard le 30 juin à un accord définitif limitant les ambitions nucléaires de l'Iran. Et l'Ukraine a mis en garde jeudi contre la menace gigantesque d'une reprise des attaques des rebelles au lendemain d'une flambée de violence qui a fait 26 morts dans l'est du pays, selon un nouveau bilan. La Russie avertissant de son côté que le processus de paix risque de voler en éclats. Voilà, c'est tout. Prochain rendez-vous dans Le Monde aujourd'hui avec Nicolas Pineau et Salwa Jafari dans 20 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.